On rejoint maintenant Mme Véronique Vizina, directrice générale du regroupement des organismes de personnes handicapées de la région La Capitale-Nationale. Bonjour, Mme Vizina.
Bonjour, vous allez bien?
Ça va bien vous-même?
Oui, merci.
Donc, le regroupement des organismes de personnes handicapées de la région La Capitale-Nationale, c'est la seule structure officielle de communication et de concertation pour les organismes de promotion et de défense des droits des personnes handicapées de la région La Capitale-Nationale, qui est la grande région de Québec. Pouvez-vous m'expliquer d'abord qu'est-ce que vous faites, quels sont vos services rapidement?
Nous, on n'offre pas de service directement aux personnes. On est vraiment un regroupement d'organismes. On regroupe 28 organismes là, qui sont sur le territoire de la capitale nationale. Donc, on couvre la région de Québec, Portneuf et Charlevoix aussi. Et on travaille des dossiers collectifs en défense des droits avec nos membres, mais avec différents partenaires aussi de la région, comme la Ville de Québec, le réseau de transport, le CIUS de la capitale nationale et bien d'autres.
Donc, on vous parle aujourd'hui particulièrement par rapport à l'accélération du développement des pistes cyclables. La Ville de Québec a annoncé vouloir accélérer le développement des pistes cyclables sur son territoire. Et de votre côté, vous avez lancé un mémoire sur la stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec 2025-2029. Donc, quand on comprend là, à la lecture du mémoire puis à la lecture de ce que vous avez expliqué dans les médias, que l'accélération des pistes cyclables, là, c'est quelque chose qui vous inquiète pour la sécurité des personnes en situation de handicap.
En fait, c'est inquiétant pour la sécurité de l'ensemble des piétons vulnérables, incluant les personnes handicapées. Il y a eu une accélération très importante là, depuis 2022-2023 et les aménagements ne sont pas conformes pour assurer la sécurité de l'ensemble des piétons, dont ceux qui sont plus vulnérables. Il y a des enjeux aux traverses de rue, par exemple. Il y a des enjeux aussi lorsque les pistes cyclables sont aménagées sur les trottoirs et qu'il n'y a pas de balises qui nous permettent de savoir, notamment pour une personne aveugle, si on est sur la piste cyclable ou sur la voie piétonne. Il y a aussi des enjeux d'accès au transport adapté, d'accès au transport en commun régulier là, qui sont dénotés dans la région. Ça fait quand même là près de 2 ans maintenant là, qu'on fait des pressions auprès d'eux pour qu'il y ait des projets pilotes qui soient faits, notamment pour avoir des aménagements sur trottoir plus sécuritaires, qui seraient détectables avec une canne blanche, par exemple. Mais malheureusement, là, il y a différents essais qui ont été faits, mais il n'y a pas de solution concluantes pour l'instant qui ont été implantées sur le terrain, alors qu'il y a quelque chose là, qui vient d'Ottawa qui a été proposé à la Ville et que la Ville tarde à tester.
On parle de quoi exactement?
Bien, c'est une bande là, qui est surélevée et qui vient délimiter la zone piétonne et la zone cyclable, ce qui fait qu'un piéton ne peut pas se retrouver dans la zone cyclable et un cycliste ne peut pas se retrouver dans la zone piétonne. Donc, ça vient protéger les piétons des vélos et ça l'empêche aussi un piéton qui, par inadvertance, se mettrait à marcher sur la piste cyclable puis qui pourrait bloquer le chemin à un vélo, par exemple.
Et j'imagine que c'est plus facile à détecter aussi pour quelqu'un qui a des difficultés visuelle qu'il y aurait une canne blanche, par exemple, là, parce que le rebord oui. Avertirait avec la canne. Oui.
C'est ça le principal objectif, c'est que la personne puisse détecter et demeurer dans la voie piétonne plutôt que d'empiéter sur la voie cyclable et peut-être de faire même un accident là, avec un cycliste.
Et ça a été proposé donc à la Ville de Québec et j'en comprends que ça a été rejeté. Quels sont les arguments de la Ville de Québec pour rejeter ce type d'accommodement?
Ça n'a pas été rejeté, c'est juste que ça tarde à être testé.
Ça tarde, OK.
Là, il y a des nouveaux aménagements qui vont se faire à l'été 2025. On espère que ça va être l'occasion d'enfin tester cette solution-là, puisqu'on va encore déployer près de 200 km là, de pistes cyclables cet été. Je pense que c'est une belle avenue pour l'essayer. Et ce qu'on espère surtout, c'est que si ça fonctionne bien, si c'est la solution qu'on veut privilégier, c'est que par la suite, on puisse l'implanter aussi puis faire du rattrapage sur les pistes cyclables déjà existantes qui n'ont pas ces aménagements-là.
Est-ce que c'est quelque chose, je sais évidemment là, que vous n'êtes pas experte avec cette technologie-là, mais est-ce que c'est quelque chose qui est très coûteux?
J'en ai aucune idée. Je ne croirais pas puisque la Ville de Québec a retenu l'idée de le tester. Donc, ça doit être que pour eux, ça n'engage pas des frais très élevés,
OK.
non.
Et à part, tu sais, on parlait donc des délimitations là, entre le passage piéton et le passage cyclable. Quelles sont aussi d'autres recommandations que vous avez faites dans votre mémoire sur la stratégie de sécurité routière?
Bien, il y a toute la question, toujours en lien avec les pistes cyclables, il y a toute la question des aménagements des pistes sur rue qui viennent entraver l'accès au transport adapté parce qu'on a mis des bollards finalement pour empêcher les voitures d'empiéter sur la piste cyclable et les voitures taxis qui font du transport adapté ou les minibus qui font du transport adapté, bien, peuvent avoir de la difficulté à laisser les personnes à la porte. Donc, c'est plus des services de porte à porte. On demande à ce qu'ils les débarquent plus loin sur des rues qui sont perpendiculaires à l'avenue auquel ils auraient été débarqués. Si on veut pas que ça arrive, il faut faire des démarches. Le transport adapté doit demander de faire retirer des bollards pour que le transport adapté puisse avoir accès à un domicile ou à un commerce, par exemple. Fait que c'est des entraves qui deviennent importantes pour avoir un service de porte à porte en transport adapté. Et c'est la même chose lorsqu'il y a des services de transport en commun réguliers. Les autobus ne peuvent plus ou ne pourront plus, là, parce qu'encore à certains endroits, elles peuvent s'approcher. Ne pourront plus s'approcher des trottoirs. Donc, on va aménager des nouveaux quais d'embarquement qui doivent aussi être testés pour vérifier s'ils seront accessibles, notamment pour les personnes en fauteuil roulant ou pour les personnes aveugles. Mais ça va amener les gens à être obligés de traverser la piste cyclable pour monter sur le quai d'embarquement pour ensuite embarquer dans l'autobus. Fait qu'il y aura la nécessité de tester des ralentisseurs là, auprès des arrêts d'autobus pour s'assurer que les vélos n'arriveront pas à pleine allure en même temps que les gens vont soit traverser pour aller prendre l'autobus ou pour en débarquer.
Oui, donc ça cause quand même des problèmes supplémentaires, des enjeux supplémentaires là, au niveau de la sécurité, hein. Évidemment, il y a chaque pas de plus ou chaque mètre de plus qui doit être fait pour une personne en situation de handicap ou une personne vulnérable pour se rendre jusqu'au transport adapté, ben ça peut créer évidemment là, des dangers, des chutes, toutes sortes de problèmes. Et on sait que évidemment le transport adapté, malheureusement, là, souvent, ils font un peu avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire que s'ils sont pas capables d'embarquer une personne, vont simplement là, peuvent simplement repartir. Et donc, effectivement, ça cause des problèmes au niveau de la qualité du service.
Ça cause des problèmes au niveau de la qualité du service, mais je vous dirais que si on va plus loin, c'est au niveau de la participation sociale parce qu'on commence à avoir un certain isolement des personnes qui préfèrent ne plus sortir parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être en sécurité si elles vont à l'extérieur. Donc, nous, ce qu'on craint, au-delà des accidents potentiels, c'est aussi qu'il y ait un plus grand isolement des gens qui vont préférer rester chez elles que de sortir puis risquer de côtoyer, des cyclistes et d'avoir un accident.
Oui, vous avez raison de le mentionner, hein. Juste la crainte souvent est suffisante pour rester à la maison. Puis ça fait en sorte, évidemment, on le sait, là, des personnes qui sont isolées ont beaucoup plus de problèmes de santé mentale, de problèmes physiques également. Donc c'est une roue qui tourne dans le mauvais sens, ça.
Effectivement, puis ça peut engendrer toutes sortes d'autres problèmes physiques ou des problèmes de santé importants, le fait qu'elle ne soit pas. Il y a la santé mentale, mais il y a la santé physique
Oui.
aussi, la santé psychologique qui est importante. Donc, il faut prendre soin de ces gens-là puis leur permettre d'être en sécurité à l'extérieur pour qu'elles veulent encore sortir, vaquer à leurs occupations, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les études ou simplement pour faire des activités sociales.
Donc, pour terminer, pour ceux qui voudraient consulter votre mémoire sur la stratégie de sécurité routière que vous avez déposée là, pour 2025-2029, où est-ce que c'est disponible?
Notre mémoire est disponible sur demande. Là, vous pouvez nous écrire à l'adresse d'Europe03, le ROP03@ROP03.com. Ça va nous faire plaisir de vous le transmettre.
Parfait. Merci beaucoup, Madame Vézina. Vous êtes directrice générale du regroupement des organismes de personnes handicapées dans la région de la Capitale-Nationale et on espère qu'avec le beau temps viendra là, des négociations et éventuellement des actions là, pour permettre à tout le monde de bénéficier donc de la rue, des trottoirs de façon sécuritaire.
Je vous remercie. Au revoir.
Merci. Bonne journée. Après la pause, on rejoint la responsable de la politique du plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour 2024-2026 dans la ville de Baie-Comeau, Amy Foster.